Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi, c'est arrivé aujourd'hui.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, rétrospective aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre, direction l'année 1915. Les dernières troupes australiennes de l'Anzac quittent Gallipoli. Après des mois de combats meurtriers et une campagne désastreuse pour les Alliés, l'armée australienne parvient pourtant à se retirer presque sans perte. Une évacuation discrète, méthodique et rusée, devenue l'un des rares succès de l'opération Gallipoli. Reportage d'Ileana Guillochon.
Le rapatriement des dernières troupes australiennes de l'Anzac à Gallipoli. Au début du XXe siècle, les tensions montent en Europe, économiques, coloniales, militaires. La Première Guerre mondiale démarre en 1914. Deux blocs se forment et s'affrontent, la Triple Entente d'un côté et la Triple Alliance de l'autre. Une guerre qui sera mondiale bien au-delà des frontières européennes et pendant ce temps-là, l'Australie était toujours sous l'Empire britannique. Parmi ces fronts lointains, il y a Gallipoli. Là-bas, la campagne sera un désastre militaire pour les Alliés. Pourtant, après des mois de combats acharnés et de conditions terribles, l'armée australienne réussira à quitter la péninsule sans chaos. Et comment ? Grâce à un retrait rusé et minutieusement planifié. En 1915, la guerre est bloquée sur le front occidental et les Alliés cherchent un nouveau front. Ils tentent alors de contrôler les Dardanelles, un passage stratégique à l'extrémité occidentale de la péninsule anatolienne. Mais l'offensive navale échoue. En une journée, un tiers des cuirassés est coulé ou mis hors de combat. Les Alliés passent donc à une opération terrestre. Le 25 avril 1915, ils débarquent à Gallipoli, les Britanniques au sud, les troupes australiennes et néo-zélandaises de l'Anzac sur la côte ouest pour leur premier engagement dans la guerre.
Anzac, to me, is so important and it's important to Australia. We became a nation the day we landed on Gallipoli.
Mais rapidement, le manque de renseignements, les lourdes pertes et les conditions insalubres, avec des cadavres jonchant les plages, obligent les Alliés à se réfugier dans des tranchées creusées dans les collines. Un dernier plan est tenté le 6 août 1915 pour prendre les collines au nord, mais les troupes restent bloquées sur les plages. Le front se fige, l'offensive échoue et en moins d'une semaine, les Ottomans reprennent le terrain perdu. Clairement, c'est un échec. Les tranchées turques sont beaucoup trop solides. Sans renfort, on ne peut pas avancer. Et lancer une nouvelle attaque à Anzac semble impossible. En plus, les commandants s'inquiètent des problèmes de ravitaillement pour l'hiver. Après de longues discussions, le 8 décembre, le cabinet de guerre britannique décide finalement de mettre fin à la campagne. Mais sur le terrain, cette décision avait déjà été anticipée. Les officiers supérieurs avaient pris les devants en mettant en place un plan d'évacuation. Une question se pose alors, les Anzacs peuvent-ils se retirer sans être repérés ? Beaucoup craignent de lourdes pertes, et pourtant, en réalité, il n'y en aura pratiquement aucune. Un officier d'état-major australien met au point un plan précis. L'objectif, retirer progressivement les hommes et le matériel, tout en faisant croire aux Turcs que tout se déroule normalement. Voilà toute la ruse. Les troupes mettent en place ce qu'on appelle des manœuvres silencieuses. À Anzac, presque tous les tirs cessent pour donner l'impression de simples préparatifs pour passer l'hiver. Et puis, jusqu'au bout, quelques coups de fusil et d'artillerie sont tirés de façon irrégulière, exactement comme les Turcs s'y attendent. L'objectif est clair, surtout ne pas laisser croire à un retrait. Le matériel, lui, est en grande partie évacué de nuit. Mais en journée, certains équipements continuent d'être débarqués ou jetés dans Zakhov et de North Beach, simplement pour entretenir l'illusion d'une activité normale. Selon le calendrier prévu, les troupes doivent quitter Anzac en trois étapes. La première étape de l'évacuation, ce qu'on appelle la phase préliminaire, commence en attendant la confirmation de Londres. Pendant que le cabinet britannique doit encore valider la recommandation, les Alliés retirent seulement quelques hommes et un peu de matériel, mais juste assez pour donner aux Turcs l'impression qu'une garnison se prépare à passer l'hiver sur place. Une fois l'accord obtenu, la phase intermédiaire démarre. Le nombre de soldats à Anzac est réduit, mais il reste suffisant pour repousser une attaque turque pendant environ une semaine. Après ces deux premières étapes, la garnison passe de 41 000 à 26 000 hommes. Ensuite vient la phase finale. Le 17 décembre, deux jours avant l'évacuation complète, un célèbre match de cricket se joue à Shell Green. Et pendant la partie, des obus turcs passent au-dessus du terrain sans même sembler déstabiliser les joueurs. Ce match est immortalisé, il reste aujourd'hui une archive officielle de l'Australie pendant la Première Guerre mondiale. Le lendemain, il ne reste plus que 20 000 soldats à Anzac. Finalement, les dernières troupes australiennes quittent Gallipoli le 20 décembre 1915 avec presque aucune perte. Les réactions sont multiples, mais un sentiment domine, la tristesse de quitter les camarades décédés.
We will remember them.
Pendant longtemps, les objectifs des deux premières phases restent secrets. Ce n'est qu'au cours de la deuxième semaine de décembre que les soldats comprennent qu'une évacuation à grande échelle est en cours. À partir du 13 décembre, tout le monde le sait. Quelques semaines plus tard, les Britanniques quittent Hells. La bataille est terminée.
L'évacuation était probablement le seul pull. Can the trouble if I say this? The only brilliant thing was done on Gallipoli. It was a brilliant expedition. No doubt about it. Marvelously conceived and wonderfully carried out.
Gallipoli reste un épisode majeur et fondateur pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, commémoré chaque 25 avril lors de l'Anzac Day. Si la campagne a été un désastre pour les Alliés, l'évacuation, elle, a été un véritable succès. L'opération la plus réussie de toute la campagne.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Cherche un peu la flamme, est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la garde. Mais la pluie coule encore, à mesure que nos cœurs se dévorent. Est-ce que tu m'aimes encore? La pluie coule encore, à mesure que nos cœurs se dévorent.
Et c'était Louane avec sa chanson La Pluie, une de nos chansons préférées de l'année 2025, qui touche bien entendu bientôt à sa fin. Louane, La Pluie sur SBS en ce samedi. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants et on revient dans Europa Voice sur les attentats de Bondi Beach avec Nathanaël Bloch tout de suite après ça.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Europa Voice numéro 173. Et comme à l'accoutumée, je suis avec mon grand ami Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, semaine compliquée dans l'actualité, semaine difficile. On a deux sujets pour vous aujourd'hui dans cet épisode d'Europa Voice. On va bien sûr revenir sur les attentats, donc l'attentat de Bondi et ses répercussions au niveau politique à la fois en Australie et en Europe. Et en deuxième partie d'Europa Voice, nous parlerons de dermatose nodulaire, qui est le sujet de discussion en France en ce moment et qui s'extrapole sur le traitement des agriculteurs et le traitement d'une crise comme celle-ci. Nathanaël, premièrement, on va revenir, bien entendu, sur ce qui s'est passé ce week-end dernier à Bondi. On va rester d'un point de vue d'une analyse politique. On n'est pas là pour parler vraiment nécessairement de l'acte en lui-même. On sent quand même que tout de suite après les faits, ça a mis un coup de projecteur sur le gouvernement quand même.
D'abord, Christophe, je veux évidemment avoir une pensée pour tous ceux qui ont été affectés par ce terrible attentat antisémite de Bondi. Et effectivement, ce qui s'est passé à Sydney a un petit peu tout chamboulé en cette fin d'année en Australie. Ça inclut également l'agenda politique, Christophe. Il ne pouvait en être autrement, parce qu'il faut le rappeler, c'est la plus grande tuerie de masse en Australie depuis les événements tragiques de Port Arthur en Tasmanie.
C'était en 96. Hein.
Voilà, donc il y a même plus de 20 ans de cela. Presque 30 ans. Et donc forcément, on est peut-être, j'allais dire malheureusement, trop habitué à ce genre d'attentats terroristes en Europe, mais pour l'Australie, à l'échelle de l'Australie, et à juste titre, c'est un traumatisme qui va bien au-delà, hein, de la communauté juive, Christophe, c'est un traumatisme national, et ça a mis un sérieux coup de projecteur aussi, alors pour certains, sur l'inaction du gouvernement travailliste aux responsabilités, et pour d'autres sur la nécessité de faire encore plus. Mais il est évident qu'il, ça va paraître un peu bateau, mais qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après cet attentat terroriste antisémite de Sydney.
Alors si on prend tout d'abord au niveau du gouvernement, la réaction du gouvernement d'Anthony Albanese, on a réagi comment? Comment vous jugez en tant que, si juste je vous demande de mettre votre casquette de communicant de crise, on va dire là-dessus pour parler de ça, comment cette gestion de ce drame a été fait par rapport au gouvernement?
Alors il faut peut-être, Christophe, sur ces questions-là, distinguer deux choses. La première chose, c'est la réaction, j'allais dire immédiate, du gouvernement albanaisi, finalement, et des gouvernements d'État hein, aussi. Hein, je pense au premier du New South Wales, Chris Minns, j'allais dire a été ce qui peut être attendu d'un politique au pouvoir. C'est-à-dire, encore une fois, de chambouler hein, tout l'agenda politique, de se rendre sur place, à la fois sur place au niveau là où le drame s'est déroulé, mais se rendre aussi auprès des acteurs, de ceux qu'on a pu qualifier de héros, qui ont pu sauver des vies, donc notamment à l'hôpital, aux hôpitaux de Sydney, et puis aussi de ne pas oublier de remercier ceux qui ont encore une fois soit permis que ce drame n'ait pas été plus grand, ou en tout cas qui ont assuré les premiers soins, et notamment je pense à cette visite aux hôpitaux faites par le Premier ministre australien Albanese. Donc sur cette réaction-là, première chose à distinguer, effectivement, le temps s'est arrêté, mais un petit peu comme le temps s'était arrêté, Christophe, quand il y a eu le Bataclan, par exemple en France, ou l'Hypercacher, ou Charlie Hebdo, on a vu vraiment les politiques, c'est normal, naturel, prendre la mesure des choses. Le deuxième aspect qu'il faut distinguer, et c'est là où, à mon avis, ça va devenir... Je parle en tant que communicant politique, en tant que communicant de crise, là où ça va devenir compliqué, c'est-à-dire qu'il y a eu, dès les premiers instants, déjà une opposition frontale entre les critiques qui ont été faites, apportées au gouvernement albanaisi et au manque d'action, au manque de réaction face aux signaux faibles sur les questions d'antisémitisme. Et malheureusement, la liste est longue, hein, comme le bras. Hein. Et ça, très tôt après... l'attentat antisémite de Bondi, le gouvernement d'Albanese a été pointé du doigt, pas seulement par la communauté juive en Australie, hein, mais par les Australiens au sens plus large, par évidemment l'opposition politique. Et très rapidement aussi, ce qui est un peu surprenant, et là, je prends une casquette de communicant de crise, c'est qu'au lieu de finalement d'accepter ou en tout cas d'ingérer ces critiques-là et puis d'y revenir le temps voulu, c'est-à-dire après le temps de la commémoration, très vite en fait, le gouvernement albanais s'est braqué et a contesté les critiques d'inaction qui lui ont été faites. Et c'est là où, à mon avis, il y a une dichotomie et un fossé qui va malheureusement être de plus en plus grand. C'est que il y a déjà plus tellement de lieux de parole, de lieux de dialogue. C'est-à-dire que pour ceux qui pensent qu'il n'a pas assez fait, Albanese a tout de suite répondu que si ce qu'il a fait est suffisant, mais qu'il va falloir faire plus. Et à mon avis, voilà, d'un point de vue politique, c'est là où ça va être intéressant de regarder ces prochaines semaines, une fois le temps, j'allais dire, des commémorations passées, une fois le temps du chagrin et les premiers jours, de voir en fait comment ce fossé, à mon avis, encore une fois, sans lire dans les boules de cristal, ce fossé va être non guérissable. Et il va y avoir toujours maintenant cette présomption faite. Alors, certaines présomptions peuvent être justifiées, d'autres seront plus opportunes, hein, notamment de la part de l'autre camp politique, mais à mon avis, c'est là où il y a eu un traitement différent, une réponse politique très différente. Si on pense par exemple à Charlie Hebdo, si on pense au Bataclan, il y a eu très peu d'accusations, Christophe, d'une inaction du gouvernement Hollande ou du fait que le gouvernement Hollande n'ait pas fait assez. Ça, c'est pas vraiment venu sur la table. Et là, très rapidement, ici, en Australie, c'est venu sur la table. Et à mon avis, ça, c'est un point essentiel en termes d'analyse politique pour les prochains jours et les prochaines semaines.
Et du côté de l'opposition, Suzanne Ley, assez rapidement quand même, a aussi critiqué le gouvernement d'Albanese. Pour vous, c'était opportun? Comment vous voyez cette prise de parole? Parce que c'était presque 12 heures après l'attaque, simplement.
Je pense que l'opposition, Christophe, elle est aussi un peu dans son rôle, non pas d'émettre les premières critiques par rapport au gouvernement albanaisien, mais en tout cas d'appuyer les critiques qui sont faites, encore une fois, que ce soit par les membres de la communauté juive ou par les membres des communautés en Australie de manière plus générale. Alors effectivement, il y a toujours cette question de est-ce qu'on commence déjà à critiquer alors que l'attentat a eu lieu quelques jours avant. Voilà, ça c'est chaque leader politique avec sa conscience, mais en tout cas le paysage australien tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir des gouvernements à la fois fédéraux et d'État à très grande majorité, si c'était entièrement travailliste, fait que effectivement l'opposition a plus de facilité à pointer du doigt, selon ses dires, hein, les manquements, les non-réactions aux avertissements, aux signaux faibles, etc. Alors Suzanne Ley, elle est aussi contestée dans son camp. Certains se demandaient si elle allait passer Noël en termes de leadership politique. Et donc ça va être aussi une question qui va être intéressante d'un point de vue de la communication politique à analyser, Christophe. Est-ce que finalement cet épisode-là va faire que l'opposition se structure un peu différemment? Et je prends juste un exemple qui est lié à ce qui s'est passé à Bondi. C'est que Albanese avait nommé une émissaire, une représentante sur les questions justement d'antisémitisme et d'apporter une feuille de route pour trouver des réponses et lutter contre l'antisémitisme en la personne de Gillian Segal, qui est une équivalente de haute fonctionnaire australienne. La feuille de route que cette dernière avait proposée n'a pas été suivie et a été complètement détricotée de ses principaux éléments. L'opposition, une des premières choses que l'opposition a dites, c'est qu'ils vont monter leur propre task force, leur propre feuille de route sur ces questions-là. Et donc ça montre que peut-être d'un point de vue opportunistique, mais en tout cas, en termes de momentum politique, l'opposition a bien compris que c'est un sujet sur lequel il y a des trous dans la raquette du côté du parti en pouvoir, et ils vont s'en saisir. Alors est-ce que ça va leur apporter des bénéfices? Est-ce que ça va leur permettre de résister aux prochaines élections d'État, notamment dans le Victoria, et de re-remporter le Victoria l'année prochaine? C'est trop tôt pour le dire. En tout cas, cette séquence, elle crée en termes de momentum politique aussi des opportunités pour l'opposition de se structurer et d'apporter des réponses qui sont différentes par rapport à ce que les travaillistes au pouvoir, eux, apportent, et notamment sur ces questions de lutte contre l'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023.
Juste pour conclure sur ce sujet, la réaction à travers le monde et en Europe, plus particulièrement, ce podcast s'appelle Europa Voice. On a bien vu, hein, tout le monde a condamné, bien entendu, l'attaque. Tout le monde était aux côtés des Australiens. Comment vous la jugez, vous, cette réaction européenne par rapport à l'attaque qui est une première, notamment, première en Australie?
Je crois que la réponse ou les réactions des leaders, notamment européens, elle est finalement assez forte. Et, et unanime. Ça rappelle des souvenirs, en fait. Christophe, c'est souvent on a tendance à parler du cynisme des dirigeants politiques, etc. Mais si on prend l'exemple français, l'exemple allemand, l'exemple anglais, sur tous ces territoires, ils ont connu des choses similaires. Et donc, forcément, en tant qu'homme, en tant que leader politique, ça leur rappelle des choses, ça leur rappelle des sujets dont ils ont eu à traiter aussi en tant que leader politique. Et donc, je crois que c'est une réponse assez sincère. Et je crois surtout que c'est, j'allais dire, une vague de condamnation, des réactions qui sont foncièrement celles d'hommes et de femmes politiques qui... eux-mêmes ont été au pouvoir à ce moment-là.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur, en tout cas, la réaction et l'analyse politique. Merci Nathanaël d'avoir fait cela pour nous. Hein. C'est jamais simple d'analyser une réaction politique globalement à chaud. On n'est que quelques jours donc après le drame. Donc merci Nathanaël pour ça. Notre Suisse national, chanteur suisse, donc Stéphane Escher, avec sa nouvelle chanson Autour de ton cou, en ce samedi sur Radio SBS. Courte pause et on parle d'endométriose avec Marianne qui reçoit Marie-Colline Barraud dans quelques instants.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aujourd'hui, on va parler d'endométriose et notamment d'endométriose et d'alimentation. On va se poser la question de quelles sont les connexions. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Marie-Caroline Barraud, diététicienne, nutritionniste et formatrice spécialisée dans l'accompagnement des patientes atteintes d'endométriose, mais aussi d'autres pathologies liées à la santé féminine, comme le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple. Marie-Caroline, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On parle particulièrement maintenant puisque vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle « Endométriose et nutrition, comprendre, adapter, mieux vivre » aux éditions InPress en partenariat avec Endo France. L'endométriose, c'est un sujet qui nous touche beaucoup, toutes et aussi particulièrement l'équipe d'SBS French puisqu'on a un podcast dédié à l'endométriose qui s'appelle Happy Endo. Et d'ailleurs, je voudrais dire à nos auditeurs qu'un huitième et dernier épisode va sortir prochainement. Marie-Caroline, votre ouvrage est né d'un constat que les patientes qui souffraient d'endométriose eh bien, étaient les premières à avoir plein de questions concernant l'alimentation.
Oui, tout à fait. En fait, je me suis rendu compte surtout en consultation, il y a quelques années, lorsque j'ai reçu mes premières patientes atteintes d'endométriose, qu'elles étaient complètement perdues et qu'elles souffraient souvent de carences nutritionnelles que je calculais dans l'assiette, hein, des prises alimentaires montraient des carences nutritionnelles et des troubles de conduite alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles essayaient d'être soulagées d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas les critiquer. Elles essayaient d'être mieux et en fait, elles supprimaient quantité d'aliments, de groupes d'aliments. Et donc, en fait, on se retrouvait avec des carences nutritionnelles et des troubles de conduite alimentaire, avec la peur générée par certains aliments, accentuée aussi par des messages souvent contradictoires sur les réseaux sociaux, par des influenceurs ou autres, des messages contradictoires et surtout qui ne sont non fondés sur des preuves scientifiques. Et donc, en fait, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser, en fait, à cette pathologie, à ces patientes, et à effectuer des recherches et à essayer de guider au mieux mes patientes sur une alimentation protectrice, mais tout en faisant passer le message qu'il n'y a pas d'alimentation on va dire, anti-endométriose. Il n'y a pas d'alimentation qui soigne l'endométriose. Donc voilà.
Ça serait magnifique.
Ce qu'on dit aujourd'hui vaut pour aujourd'hui. Les recherches sont en cours et peut-être que nous aurons des pistes au niveau alimentaire, mais tout ce qu'on dit aujourd'hui vaut pour aujourd'hui en 2025.
On ne peut pas vraiment faire de liste de quels sont les aliments pour, quels sont les aliments contre, mais vous allez nous guider sur quelle assiette type peut faire du bien. Mais avant ça, je voudrais qu'on coupe court tout de suite à une fausse croyance. Il n'y a pas de recette miracle et dans ce livre, vous ne donnez pas de solution clé en main.
Tout à fait, parce qu'en fait, les patientes sont différentes. J'essaie de bien, comment dire, expliquer aux diététiciens, il y a finalement deux groupes de patientes atteintes d'endométriose que l'on reçoit en consultation, celles qui ont de l'endométriose sans trouble digestif et celles qui ont de l'endométriose avec des troubles digestifs.
J'allais justement vous le
Voilà.
demander, est-ce que toutes les femmes qui ont de l'endométriose ont des troubles digestifs? Donc la
Non,
réponse est non.
non. Non, voilà. Alors une grande partie souffre de troubles digestifs. Alors est-ce que ces troubles digestifs sont liés à des lésions d'endométriose au niveau du tube digestif ou à des adhérences, point, grand point d'interrogation, ou bien est-ce que c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable qui est associé à cette endométriose? Point d'interrogation. Donc en fait, si la patiente vient en consultation, adressée par son gynécologue, que le syndrome de l'intestin irritable a été, le diagnostic a été posé, c'est plus simple effectivement pour nous diététiciennes. Et je reviens sur ces patientes qui ont de l'endométriose sans trouble digestif. Alors quelle est l'alimentation qu'on peut recommander? Alors vous savez, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. J'essaie de lutter contre cette alimentation qu'on dit anti-inflammatoire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas faux de parler d'alimentation anti-inflammatoire quand on parle de certains modèles, notamment le modèle méditerranéen, qui est le modèle qui a été le régime qui a été le plus scientifiquement étudié et qui montre en fait vraiment des bénéfices au niveau des paramètres inflammatoires. Mais cette alimentation anti-inflammatoire, en fait, elle ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'en est saisi en perdant finalement l'origine. Et donc, en fait, on entend dans alimentation anti-inflammatoire, eh bien, sur les réseaux sociaux, on entend, on enlève le gluten, on enlève les produits laitiers, on enlève un petit peu tout, et on ne sait plus, finalement, les patients ne savent plus. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que dans ce terme alimentation anti-inflammatoire, les mots sont mal associés. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, on pense alimentation, une bonne alimentation, une mauvaise alimentation. Ça perd complètement nos patientes. Alors que si vous parlez du modèle méditerranéen, on pourrait parler aussi d'autres modèles qui ont été étudiés, qui sont assez intéressants au niveau japonais, au niveau. Il y a des régimes comme ça qui ont montré des bénéfices pour la santé. Et puis, il y a le grand gloubi-boulga où on met un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, le modèle méditerranéen, c'est une alimentation qui est détendue, c'est une alimentation qui est conviviale, avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des produits céréaliers complets, les produits laitiers sous format fermenté. Peu de viande, plutôt les protéines consommées sous format produits de la pêche, hein, les poissons, les produits de la mer, et puis les légumineuses. Et puis enfin, ben, la viande rouge, un peu, très peu, les produits sucrés, les produits transformés, très peu, très 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 peu, voire pas du tout de produits transformés. Une bonne hydratation. Et puis, l'huile d'olive, qui est assez intéressante hein, pour quantité de raisons. Et puis, il y a les fruits à coque, il y a l'ail, il y a l'oignon. C'est un régime qui est riche en fibres, qui est riche en antioxydants, qui est riche j'en ai pas parlé, en polyphénol. On est sur une alimentation qui est détendue. Et vous avez effectivement des bénéfices au niveau des paramètres inflammatoires. Donc ça, c'est un modèle méditerranéen que finalement, pourquoi s'en passer, en fait? Et on peut l'adapter, évidemment. Chez nos patientes qui ont des troubles digestifs, la particularité de ce modèle méditerranéen, c'est qu'il est un peu riche en fibres. Donc, il est très bon pour les patientes qui n'ont pas de troubles digestifs. Et celles qui ont des troubles digestifs, bah ça va être un petit peu compliqué. Donc, il faut l'adapter.
Et tout à l'heure, vous avez parlé justement du gluten, des produits laitiers. Vous l'avez pas dit, mais on peut même étendre au chocolat, au café. C'est des mots qui font peur quand on a mal au ventre régulièrement, qui plus est quand on souffre d'endométriose. Faut pas forcément les arrêter, c'est ce que vous nous expliquez.
Alors, on va prendre l'exemple du gluten. Le gluten, c'est la partie protéique du blé, hein, c'est gliadine, gluténine qui s'assemblent pour former le gluten. Mais dans le blé, vous avez aussi des fructanes. Et les fructanes, eh bien, c'est un des FODMAP, ce sont des sucres qui vont, chez certaines patientes, entraîner des troubles digestifs. Et dans le blé que les patientes suppriment à tort, mais vraiment, je ne leur lance pas la pierre parce qu'elles essaient d'être mieux. supprime le gluten, mais en fait, ce n'est pas le gluten qui pose problème, ce sont les fructanes. Et les fructanes, eh bien, c'est un des FODMAPs. Et là, c'est une autre piste. Quand nous avons des patientes qui souffrent de troubles digestifs, eh bien, nous avons le protocole FODMAPs. Alors, ce n'est pas un régime qui n'est pas à suivre au long terme, c'est un protocole.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est FODMAP, s'il vous plaît?
Alors, FODMAP, c'est un acronyme qui signifie Fermentable Oligo Dimonosaccharide Polyol. Donc, c'est un grand groupe de sucres. Mais alors, on en retrouve, vous voyez, par exemple, le lactose dans le lait, c'est un des FODMAPs. Les fructanes, vous avez le sorbitol, vous avez des quantités, en fait, de sucre que l'on va retrouver dans l'alimentation, mais qu'on va retrouver, vous voyez, on parlait des fructanes. Le fructane dans le blé. Okay. Mais les fructanes, on va aussi les retrouver dans l'ail, dans l'oignon, dans le poireau, etc. Donc en fait, ce sont des sucres qui ne sont pas mauvais pour la santé, mais qui, chez certains patients, peuvent entraîner des troubles pour différentes raisons. Et donc, vous avez un protocole FODMAPS qui permet de diminuer fortement ces FODMAPS de façon à observer si il y a une amélioration des troubles, mais avec réintroduction ensuite. On ne peut pas suivre un protocole FODMAPS à vie, c'est un protocole à risque de carence nutritionnelle. Donc il nécessite une réintroduction. Et ça, les diététiciens qui sont formés au FODMAPS, il faut s'adresser à un diététicien formé, eh bien, peuvent chercher la piste FODMAP. Et vous voyez ici, ce n'est pas le gluten dans le blé qui pose problème, c'est les fructanes. Et donc supprimer le gluten, c'est le risque en fait, c'est qu'on se retrouve avec des patientes qui vont, en supprimant le gluten, supprimer tout un groupe d'aliments, et puis consommer des produits qui vont être transformés, c'est-à-dire qu'on va acheter des produits sans gluten transformés avec les risques que cela engendre derrière.
Et l'alcool?
Il n'y a pas d'études qui montrent qu'il faut supprimer l'alcool dans l'endométriose. Mais bah, c'est avec grande, grande, grande modération, puis on attend les scientifiques par rapport à l'alcool, bien entendu. Pareil pour la caféine, j'avais lu, c'est une étude assez récente qui montre que jusqu'à 300 mg de caféine, ça ne pose pas de problème non plus.
Et ce qui est très difficile dans cette maladie, c'est que ce que vous nous dites depuis le début, on pourrait très bien ne pas être en train de parler de l'endométriose, en fait. C'est plus une assiette de bon sens. Mais tant il y a autant d'endométriose que de femmes, eh bien, il y a autant de bonnes assiettes adaptées à chacune des patientes également. On ne va pas toutes réagir de la même façon à notre alimentation.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dédramatiser un petit peu l'assiette, arrêter avec ces discours, en fait, du moins ces injonctions que l'on peut donner à nos patientes, leur dire, voilà, alimentation détendue, variée et équilibrée. Et puis derrière, si vous avez des troubles digestifs, d'abord avis médical, et puis ensuite, l'approche diététique peut être très intéressante pour chercher effectivement. Vous savez, c'est ce que je dis dans le livre notamment, ne serait-ce que la mastication. Est-ce que vous prenez le temps de mâcher, hein? La digestion commence dans la bouche avec les enzymes au niveau de la salive. Est-ce que votre alimentation est équilibrée? Est-ce que vous prenez le temps à table? Est-ce que vous restez, voilà, au moins 20 minutes à table? Il y a plein de choses à travailler. Et puis derrière, si les premières mesures ne suffisent pas, eh bien on va regarder au niveau, par exemple, ben, des FODMAPs. Est-ce qu'il y a un ou des FODMAPs que vous ne tolérez pas, par exemple. Et on va regarder quelle dose vous allez pouvoir tolérer. On va diminuer et puis on va réintroduire. Donc voilà. Et puis alors, il y a d'autres pistes, bien entendu. Il n'y a pas que le protocole FODMAP, mais c'est celui qui est cité dans le cadre de l'endométriose.
Et alors justement, est-ce qu'il y a d'autres pistes à explorer pour soulager les maux de ventre?
En France, nous avons un parcours de soins maintenant pour les patientes où les médecins appellent ça les soins de support. Donc effectivement, il y a la diététique, il y a la kinésithérapie, et puis il y a tout ce qui est activité physique, le sommeil, le stress. L'ensemble, en fait, est important. L'ensemble, finalement, autour de cette patiente qui souffre d'endométriose, l'ensemble des soins est important pour justement l'aider à mieux vivre cette maladie.
Avant de clore cette interview, je voudrais préciser donc votre livre Endométriose, Nutrition, Comprendre, Adapter et Mieux Vivre. Ça fait partie des livres que toutes les personnes atteintes d'endométriose devraient avoir sur leur table des nuits. Je rappelle qu'on est presque 200 millions dans le monde à souffrir de cette maladie. Vous prenez pas de droits d'auteur sur le livre. En tout cas, enfin, tous vos droits d'auteur sont reversés à l'association EndoFrance qui lutte au
Oui,
quotidien.
j'ai décidé de reverser mes droits d'auteur parce que c'est une association. Les associations de patientes sont très importantes. Finalement, elles ont été quand même vraiment moteurs dans toute cette recherche autour de l'endométriose. C'est elles qui ont alerté, c'est elles qui ont, en coordination avec le milieu médical, qui ont vraiment fait monter ce sujet qui est très très important puisque ça concerne une femme sur 10, bien entendu.
Marie-Caroline Barrault, merci beaucoup.
Merci pour votre accueil.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond, ce désespoir caché au fond de moi? Oui, je suis mal aimé, c'est vrai, je suis le mal aimé.
François, vous aurez reconnu la chanson Le Mal-Aimé que vous avez peut-être vu dans cette fameuse publicité avec le loup pour un supermarché en France. Publicité qui a été vue presque 1 milliard de fois, cette chanson Le Mal-Aimé, donc de Claude François. Courte pause en ce samedi, on se retrouve dans quelques instants. On parle de chocolat de cacao avec Laurent Méric tout de suite après ça.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Allez, parlons peu, mais parlons chocolat aujourd'hui dans l'émission en français avec un monsieur du chocolat en Australie. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. C'est Laurent Méric. Salut Laurent.
Bonjour Christophe.
C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Déjà, il y a l'accent du Sud. Ouais. On va parler de tout ça. Mais le chocolat, c'est votre vie. Racontez-nous un petit peu l'histoire de votre marque Cacao, qui est très connue. Si on connaît le bon chocolat, le chocolat de qualité, Cacao, ça fait un bail que ça existe.
Hein. J'ai appris le chocolat en France, donc à Toulouse et à Paris.
Alors, l'accent vient de là déjà.
Voilà, je suis toulousain et donc j'ai appris, j'ai fait l'école hôtelière dans le sud de la France, mais j'ai vraiment appris mon métier à Paris. J'ai passé 10 ans à Paris et j'ai fait un brevet de maîtrise sur la chocolaterie, etc. Et en fait,
vous avez appris à dire pain au chocolat plutôt que chocolatine, c'était la base?
À Paris, ça passe pas pain au chocolat.
Ça passe pas. Ok. Désolé. Petite interruption.
Pourtant, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Ben voilà,
c'est un pain avec du chocolat.
maîtrise de chocolat, vous l'avez dit.
Voilà. Donc, j'ai fait mon brevet de maîtrise à Paris, sur le chocolat et la pâtisserie en général. Et ensuite, en 98, nous sommes partis pour l'Australie. Et après avoir travaillé 5 années en Australie, à Sydney, Melbourne, j'ai décidé de monter donc Cacao, qui était dédié essentiellement au chocolat, à la pâtisserie et aux entremets et aux macarons.
Mmh. Alors ça a commencé par, un café à Saint-Kilda, c'est ça?
Voilà, la première étape, ça a été donc Fitzroy Street Saint-Kilda. On a ouvert un magasin là. Pourquoi Saint-Kilda? Parce que en fait c'était un grand espace et on pouvait, parce que moi j'avais dans la tête de aussi développer la vente en gros. Donc, pas juste vendre.
Dès le départ.
C'est pour ça qu'on avait 400 mètres carrés de production et ça me permettait de pouvoir gérer en même temps la production du magasin et en même temps livrer. J'avais déjà pas mal de clients, même avant d'ouvrir, le chocolat.
C'est important de penser à ça dès le début? Parce que c'est vrai qu'il y a le côté café, le côté trade que les gens de passage. Mmh. Mais c'est important d'avoir une réflexion plus grande dès le début pour vous. C'était important ça?
De toute façon, avant de monter un business, il faut avoir un plan.
Oui.
Donc ça, c'est très important. Il faut savoir où on veut aller. Parce que produire des gâteaux, de la pâtisserie, des chocolats, etc., il faut de la place. Donc si on veut produire pour un seul magasin, on n'a pas besoin de beaucoup de place. Mais si on veut produire pour 3-4 magasins et une vente en gros derrière, il faut quand même prévoir une place suffisante, au moins pour permettre de développer le business, créer un fonds de roulement pour pouvoir s'épandre après. Mm-hmm. Donc si on avait pris un endroit plus petit ailleurs, peut-être on n'aurait pas pu faire... n'aurait pas pu se développer comme on avait envie. Et donc voilà, c'est pour ça que 5 kilos, mais ça a été très rapide, hein, parce qu'au bout, d'un an et demi, on ouvrait un deuxième magasin dans la City, puis au bout de 2 ans et demi, on ouvrait un troisième magasin, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et donc on a bougé sur Port Melbourne pour la on a été obligé de bouger au bout de 3 ans la production de chocolat. Si on n'avait plus assez de place à Saint-Kilda.
C'était un bon problème à avoir.
Voilà, tout à fait. Donc en fait le business plan qu'on avait mis en place au départ, en fait on l'a respecté. L'idée c'était de développer le chocolat et éventuellement les macarons, mais à l'époque les macarons en Australie n'étaient pas héros.
Ouais, alors vous avez entre guillemets, je vais dire, surfé cette vague,
voilà,
du macaron, parce que vous étiez un des premiers à comprendre que le macaron pouvait vraiment être si symbolique dans notre génération. C'est un produit générationnel, le macaron, maintenant.
Absolument. Mais le macaron, c'est un produit exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2 bouchées, vous pouvez avoir une tarte au citron, une tarte à la framboise, une tarte au chocolat, un gâteau au chocolat, un gâteau à la vanille. Et donc, en fait, avec 3-4 bouchées, vous pouvez passer à travers une gamme entière de gâteaux.
Ouais, sans avoir à manger des grosses parts.
Tout à fait, et puis en plus avec les doigts. Donc, c'est un produit facile à manger, facile à transporter, agréable, frais.
Qui se conserve, globalement?
Qui se conserve. En général, c'est comme... macaron, ça a quand même une durée de vie d'une semaine, quoi, au frigo.
Je veux dire, c'est pas une journée ou deux.
Tout à fait.
Voilà. Ça se conserve un petit peu.
Tout à fait. Il a une durée de vie de 15 jours, à peu près. Et facile à manger, facile à transporter, facile à offrir. Ça fait... Il tique tout un tas de boîtes.
Il faisait partie de votre business plan, au départ, ou ça vous est tombé dessus, entre guillemets?
Il faisait pas partie du business plan parce qu'en 2003, moi, j'étais focalisé vraiment sur le chocolat. Et donc, le macaron, c'était vraiment un produit de décoration d'entremets l'hiver, quand il n'y avait pas de berries.
D'accord.
Parce qu'en fait, je pouvais faire des macarons roses, jaunes, violets, de toutes les couleurs pour faire de la décoration sur les gâteaux. Et c'est ce qui a donné, en fait, une idée aux clients qui venaient les manger, qui disaient « Oh, vos macarons, ils sont bons, etc. » Mais le produit n'était pas encore rentré sur
dans
les mœurs australiennes. Alors, il y a eu un déclic en 2010. Mais nous, on était prêts. C'est-à-dire qu'on avait déjà préparé les boîtes, on savait exactement quoi faire, on avait les recettes, on avait tout. Et en 2010, c'est Masterchef, donc, qui était très populaire.
Avec un certain Zumbo.
Adriano Zumbo.
Adriano Zumbo, qui a d'ailleurs été sur SBS pendant longtemps.
Voilà, c'est un très très bon pâtissier, un très gentil garçon, qui a lancé les macarons sur Masterchef. Et en fait, on est passé de 2% à 30% en 2 mois.
Énorme.
Ouais. Ça a été le coup...
Là, ça a été la catapulte.
Complètement. Ah ouais, ça a été extraordinaire. Évidemment, on n'a pas été les seuls à partir sur cet élan. Mais je pense qu'on a été un des seuls à rester dans ce business. Aujourd'hui, à l'époque, on était passé, je sais pas moi, de 200 macarons par jour à 3000 en production. Et aujourd'hui, on en est à peu près à 45-50 000 par jour. Donc,
45 000 macarons par jour. Excusez-moi, je rattrape ma mâchoire quand j'entends ça. 45 000 macarons. J'aurais même pas pensé qu'on puisse consommer en Australie 45 000 macarons par jour, mais c'est énorme.
C'est énorme, ouais. Non, mais bon, ça s'est pas fait non plus en quelques mois. Hein. Ça a été une évolution. Un peu plus de 14-15 ans quand même pour en arriver là. Et aujourd'hui, bon, on a plus de magasin. Enfin, on a un magasin en ligne, mais on a une grosse unité de production à côté de Moorabbin. Et donc, on distribue des distributeurs tout autour de l'Australie, des corporates, des chaînes, des franchises. Et on travaille aussi avec la grande distribution.
D'accord.
On a plusieurs gammes.
Quand vous êtes venu en Australie, je crois que on se connaît un petit peu. On va pas cacher les choses. Hein. On a partagé deux trois histoires. Votre voyage, il n'était pas si simple que ça, parce que votre voyage, il est même pas terminé.
Non.
Si on vous écoute un petit peu, c'est que vous étiez parti pour un tour du monde.
Voilà.
Et que ce tour du monde, pour l'instant, vous avez fait pause. Mais vous avez fait pause il y a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, je sais plus.
Tout à fait. Mais
vous avez fait pause. Pour l'instant, dans votre tête, vous n'êtes pas forcément la personne. Vous n'êtes pas forcément installé totalement où l'Australie sera toujours partie de vous.
Ouais,
c'est dur à dire. Hein.
C'est pas évident, mais c'était un plan de départ. Quand on s'est rencontré avec ma femme, on faisait tous les deux des études. Et en fait, l'idée, c'était, on s'est mariés donc en 94, et l'idée, c'était de troquer les couverts et les fourchettes et les plats pour notre cadeau de mariage en kilomètres pour nous aider à faire le tour du monde.
Génial.
Et donc, le résultat n'a pas été aussi spectaculaire qu'on le pensait par rapport à ce troc. Mais par contre, 4 ans après, une fois que ma femme a eu ça de son degré et moi aussi, on a fait les bagages et on est parti. Mais moi, j'avais 30 ans, ma femme avait 27 ans. Donc, quand on est arrivé en Australie, on s'est dit, c'est un pays d'opportunité. C'est un pays où on peut poser les valises pendant un moment et exploiter nos études et notre savoir-faire. Et on pensait que c'était vraiment le bon pays. On a eu un bon feeling et en fait, on n'a pas eu tort. L'Australie est un pays d'opportunité avec une population qui aime manger, qui aime vivre, qui aime passer du bon temps, qui aime sortir, etc.
Vous avez vu ça changer ou pas? Parce qu'on parlait de MasterChef, ça a été une révolution mondiale, toutes ces émissions de cuisine, à la fois en France, en Grande-Bretagne, et donc ici en Australie. Vous avez vu ça changer sur la consommation et le côté un peu indulgence? On se fait plaisir et on se fait de plus en plus plaisir, mais il y a aussi une recherche de nouveautés tout le temps. On est tout le temps un peu à la recherche du prochain truc, du prochain goût, du prochain phénomène, non?
C'est un bon point et c'est vrai que...
Mais en attendant, les gens consomment toujours du macaron.
Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, innover, c'est une chose, mais en fait, on peut pas... En fait, le macaron, c'est un produit exceptionnel. Pour remplacer le macaron, c'est compliqué. C'est comme le croissant. Si on vous avait dit il y a 50 ans que le croissant, il aurait une durée de vie de 10 ans, on s'est trompé. Les gens font des croissants dans le monde entier, les gens mangent des croissants dans le monde entier, et c'est un produit qui reste là, parce que c'est un produit qui peut pas être remplacé. Il peut évoluer, il peut avoir un goût à la fraise, au chocolat, comme il y en a plein qui ont fait, mais le croissant est toujours là. Le macaron, comme je l'ai dit au départ, c'est un produit qui est très facile à manger, s'il est bien fait évidemment, qui vous donne une multitude de goûts à expérimenter dans le même repas, qui peut être frais. Enfin, je veux dire, c'est un pays qui est très difficile à remplacer, donc on cherche le
remplaçant.
Le remplaçant, mais en fait, on se trompe en fait. L'idée, c'est pas de chercher un remplaçant, c'est de chercher un autre produit qui pourrait accommoder le macaron, qui pourrait avoir le même genre de développement sans enlever le macaron, parce que je pense que c'est devenu une... c'est devenu un produit, je pense, que les gens aiment manger, en fait, que les gens aiment consommer. Et je pense pas que le macaron va perdre.
On peut faire des macarons salés, question peut-être stupide ou pas, vaut le coup, c'est intéressant ou pas?
C'est une très bonne question. On peut faire des macarons.
Je sais qu'il y en a qui ont essayé de faire des macarons au goût hamburger, notamment notre ami Adriano Zombo. Il y a eu des essais, enfin c'est possible ou pas?
Non, mais disons que le macaron salé, ça sera plutôt un macaron sucré-salé, dirons-nous, plutôt D'accord. que salé.
Parce qu'on peut pas retirer le côté sucré de la coque.
Ben, la coque, c'est une meringue, donc la meringue, elle tient grâce au sucre. Donc, en fait, on peut le diminuer, ce sucre, mais on peut pas la lever. Sinon, on n'aura plus cet effet de ce moelleux au milieu, on l'aura plus, quoi. Donc, ça, c'est la meringue qui donne ça. Donc, oui, on peut, bien sûr, on peut, parce qu'il y a des sucrés salés qui marchent très bien, hein. Donc, on peut diminuer le sucre et puis mettre, il y en a qui ont mis du caviar, il y en a qui ont mis du foie gras, il y en a qui ont mis du homard, il y en a qui ont fait un burger avec, pourquoi pas, hein.
Fou, non, on reste dans la tradition.
Ben, disons que un macaron salé, ça va plutôt s'accommoder très bien avec des fonctions, avec des cocktails.
Ouais, voilà.
Donc, c'est un produit qui va être fait pour un objectif bien précis, un cocktail, etc. Le vendre en salé,
on a du mal à imaginer d'aller au supermarché et de prendre trois macarons salés, trois macarons sucrés, voilà, et faire un repas avec.
Ouais, tout à fait. Je pense pas que ça va
non,
le faire.
Non, c'est pas possible.
Voilà. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/French ou téléchargez l'application SBS Radio.
Vendu au diable, bienvenue dans la mer. être vendu au diable. Bienvenue dans la maison des âmes en peine, mais heureuses.
Et c'était Les Yeux de la Tête avec la chanson La Maison des âmes qui fait partie de notre sélection musicale en ce mois de décembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.u/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.